le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour, il est temps d'égrener le temps avec les plus belles chansons de toutes les époques. Le 17 juin 1940, à 12h30, heure de Paris, Pétain déclare à la radio qu'il faut cesser le combat. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat, avec l'appui de Pierre Laval. La version officielle, remise à la presse et publiée le 18 juin, est modifiée. Il faut tenter de cesser le combat, car la formulation orale a complètement désorienté les combattants alors que l'armistice est encore loin d'être signé. À Bordeaux, Charles Tillon, dirigeant du Parti communiste du Sud-Ouest, lance un appel à se mobiliser contre le fascisme hitlérien. Un tract similaire appelant à la résistance est diffusé par Edmond Michelet à Brive-la-Gaillarde. De Gaulle, quant à lui, part pour Londres avec un ordre de mission de Paul Reynaud. Il est reçu par Winston Churchill. Le RMS Lancastria est coulé à Saint-Nazaire par l'aviation allemande, faisant des milliers de victimes. En réplique à l'appel de Pétain, qui appelle à la fin des combats, le général de Gaulle lance son appel du 18 juin. C'est l'acte fondateur de la France libre. En 1940, l'année a été marquée par l'effondrement militaire, l'armistice, la création du régime de Vichy. Les civils ont été contraints de fuir vers le sud et des mesures de rationnement ont été instaurées pour gérer la pénurie alimentaire. La France a également signé des accords commerciaux avec l'Espagne et a adopté des cartes d'alimentation pour contrôler l'accès aux denrées. L'appel du 18 juin 1940 est un discours historique du général de Gaulle prononcé à la BBC qui a marqué le début de la résistance française contre l'occupation allemande. Le 18 juin 1940, alors que la France subissait une défaite face aux forces allemandes et que le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, demandait l'armistice, le général Charles de Gaulle, alors sous-secrétaire d'État à la guerre, s'est exilé à Londres. Il a obtenu l'autorisation de s'exprimer à la radio anglaise, BBC, pour appeler les Français à continuer le combat.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle.
Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi ? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
L'appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Ce discours est une réponse au discours radiophonique du 17 juin 1940 du maréchal Pétain, à 12h20, quand celui-ci est devenu président du Conseil. De Gaulle s'adresse à tous les militaires, ingénieurs, ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique. Il les appelle à se mettre en rapport avec lui, pour continuer le combat contre le Troisième Reich. Il prédit aussi la mondialisation de la guerre. Très peu entendu sur le moment, l'appel donne lieu à la publication le 19 juin dans le Times et le Daily Express de la version écrite issue du ministère de l'Information du Royaume-Uni, reprise par quelques journaux français. Il est considéré comme le texte fondateur de la résistance française dont il demeure le symbole. Comme le discours n'est pas enregistré, la version sonore connue est celle de l'appel du 22 juin 1940, jour de l'armistice, qui comporte un texte similaire mais remanié. Une version filmée est réalisée encore plus tard, le 2 juillet 1940, pour les actualités cinématographiques. L'affiche, qui en est issue, comporte aussi un texte différent car il s'agit d'une proclamation publiée le 5 août 1940 et placardée seulement dans quelques rues de Londres. Le 28 juin, Londres reconnaît le général de Gaulle comme chef des Français libres. Il y a une note du général Weygand au maréchal Pétain qui résume le programme du régime nouveau « Dieu, travail, famille, patrie ». Le 29 juin 1940, le gouvernement français rejoint la zone libre et s'installe provisoirement à Clermont-Ferrand. Le 30 juin, Hitler ordonne la mise en sécurité de tous les objets d'art, qu'ils appartiennent à l'État ou à des particuliers. Otto Abetz, responsable des affaires étrangères auprès du Militar Befehlshaber, décide le 1er juillet la mainmise administrative sur la totalité du contenu de tous les musées de Paris et de province. Lili Marlène est une chanson d'amour allemande dont les paroles sont inspirées du poème écrit en avril 1915 par le romancier et poète allemand Heinz Leip et publié en 1937 dans son recueil de poèmes dit Kleine Affe Norgel. Dans sa version originale, elle a d'abord été interprétée par la chanteuse Lell Andersen en 1938. Les versions les plus populaires ont été chantées en allemand ou en anglais par Marlène Dietrich, qui modifia le titre en Lili Marlène, titre utilisé en France.
Vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
En 1941, l'Allemagne est en pleine guerre sur plusieurs fronts et, changeant brusquement de statut, cette chanson d'amour va devenir une chanson de temps de guerre. Son succès commence le 18 août 1941, après que les bombardiers anglais aient détruit l'entrepôt de disques du lieutenant Heinz Karl Reitgen, directeur de la radio militaire allemande de Belgrade. Celui-ci programme, faute de mieux, le disque alors au rebut. Radio Belgrade était entendue jusqu'au front d'Afrique du Nord et de Norvège. Les soldats de la Wehrmacht, éloignés de leur foyer et de leurs amis, envoient des dédicaces lues lors d'une émission populaire. La chanson en est l'indicatif qui clôt la fin du programme tous les soirs avant 22 heures. À son tour, elle devient très populaire. Et voici la reprise en français.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, Lili Marleen, tous deux, Lili Marleen. Dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument joue contre joue bien des serments, tous deux Lili Marleen, tous deux Lili Marleen. Le temps passe vite lorsque l'on est deux, hélas on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lili Marleen, dis-moi, Lili Marleen. La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étrange. étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lili Marlène, dis-moi, Lili Marlène,
dis-moi, Lili Marlène.
Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire, malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas, et je te fais entre mes bras. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène.
Il me semble entendre ton pas, et je te serre entre mes bras.
Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Mars 1969. 24 mars. Le gouvernement décide de limiter la vitesse sur 1600 km de route nationale à titre expérimental. Le 31 mars, le ministre de l'Équipement, Albin Chalandon, lance un concours international de la maison individuelle qui conduit à la construction de 70 000 pavillons individuels bon marché, les Chalandonnettes. Le 2 mars, c'est le premier vol du Concorde. Le premier vol du Concorde a eu lieu le 2 mars 1969 à Toulouse, piloté par André Turca. Ce vol inaugural a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'aviation supersonique, permettant à l'avion de franchir la vitesse du son. Le Concorde, un avion franco-britannique, a été le premier à être conçu pour le transport commercial à des vitesses supersoniques, et son vol a été suivi par des millions de spectateurs en direct.
Le monde entier a les yeux rivés sur le Concorde, qui est prêt à décoller de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. 400 journalistes sont conviés. Des milliers de spectateurs se pressent pour tenter d'apercevoir pour la première fois cet avion d'exception.
C'était la confrontation avec la réalité.
La perte d'un avion n'est pas envisageable, même aux essais, parce que là, ça aurait un effet catastrophique sur la vente de l'avion après aux compagnies.
Le Concorde s'élance à plus de 300 km/h sur le tarmac de Blagnac. L'avion monte à l'altitude de 9000 pieds, soit 2700 mètres, accompagné par des avions de chasse anglais et français chargés de filmer le vol.
J'aurais bien aimé être dans le cockpit, évidemment, pour ce vol. Bon, mais ma tâche principale était d'accompagner les présidents directeurs généraux. Et alors là, j'ai vu 4 gamins. Alors quand il a décollé, on a dit « Ah !» C'était une explosion de joie.
Au cours de ce premier vol de 27 minutes, l'équipage va tester l'appareil. Essai de gouverne, changement de vitesse et d'altitude. Mais ne franchit pas encore le mur du son. Puis l'avion se repose en douceur. Les journalistes se ruent pour interviewer l'équipage. André Turca, le pilote d'essai aux commandes, déclare en sortant « La machine vole et je peux ajouter qu'elle vole bien ».
Le retentissement de ce vol a été considérable et a contribué au fait que le Concorde devienne tout de suite une vedette médiatique.
22 avril, Jean Tiberi, député gaulliste, est agressé par des militants du CAL du lycée Louis-le-Grand. De Gaulle provoque un référendum sur la régionalisation et annonce qu'en cas d'échec, il démissionnera.
Vous ne m'avez pas dit s'il fallait que je commence. Hein ? Je peux commencer ?
Française, Français, dans ce qu'il va advenir de la France, jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Le 27 avril, c'est le résultat du référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Celui-ci est rejeté par 52,41% des suffrages exprimés. Le 28 avril, fidèle à sa conception du peuple souverain, Charles de Gaulle, à la suite du rejet du référendum, annonce sa démission. Alain Poher, le président du Sénat, assure l'intérim. Tous les bateaux et tous les oiseaux est une chanson de Jean-Loup Dabadie pour les paroles et Paul de Senneville pour la musique. C'est une chanson de 1969.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh, mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tout le soleil, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai les
toute première fois de sa carrière, Michel Polnareff interprète une chanson dont il n'est ni l'auteur ni le compositeur. Pour comprendre l'histoire de ce morceau, il faut remonter à la fin de l'année 1968, plus précisément le 26 décembre 1968. Le compositeur Paul de Senneville travaille sur une nouvelle mélodie. Dans la foulée, il s'enregistre sur un magnétophone à cassette avec un texte mélangeant du français et de l'anglais. Au début du mois de janvier 1969, Paul de Senneville propose cette composition à plusieurs artistes lors du MIDEM de Cannes, un salon professionnel dédié à la musique. Hervé Villard est intéressé et souhaite enregistrer une maquette. Quelques jours plus tard, Paul de Senneville rejoint à Bruxelles Michel Polnareff, dont il est le directeur artistique. Le chanteur est en Belgique pour une série de concerts. Le soir même, à l'hôtel, Paul de Senneville fait écouter à Michel Polnareff la fameuse cassette. Ce dernier demande à Paul de Senneville de lui garder cette musique et demande de lui trouver aussi un parolier. Paul de Senneville téléphone à Georges Moustaki, qui n'est pas libre. Il se tourne alors vers l'auteur Jean-Loup Dabadie, qui répond présent. Jean-Loup Dabadie propose un texte intitulé « Les bateaux, les oiseaux ». C'est Michel Polnareff qui a l'idée de modifier le titre en ajoutant un T, devenant ainsi « Tous les bateaux, tous les oiseaux ». Michel Polnareff enregistre cette chanson en seulement 3 prises. Ce 45 tours sort dans le commerce en mai 69 avec en face B un autre futur grand succès, « Tout pour ma chérie ». Disque d'or, ce slow est l'un des tubes de l'été 1969. Il se vend à plus de 750 000 exemplaires en quelques semaines. À la fin des années 2000, Michel Polnareff décide de ne plus chanter « Tous les bateaux, tous les oiseaux » sur scène, car selon lui, cette chanson a mal vieilli.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Je t'aime, moi non plus est une chanson française écrite et composée par Serge Gainsbourg et chantée par celui-ci en duo, tout d'abord avec Brigitte Bardot en 1967, qui refuse dans un premier temps sa publication. Gainsbourg la réenregistre donc avec sa nouvelle compagne Jane Birkin en 1969 et le titre sera notamment numéro 1 au Royaume-Uni. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. À bientôt.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.